Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente
Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français sur Sud Radio. Vous connaissez sûrement le statut auto-entrepreneur, il a le vent en poupe. Parfois ce statut permet d'essayer de vivre sa passion avant de faire le grand saut quand c'est possible dans l'entrepreneuriat. On va en parler de ce régime auto-entrepreneur. Désormais, vous êtes 2,5 millions en France. L'Union des auto-entrepreneurs a entrepris une étude visant justement à identifier précisément le profil des individus qui choisissent de créer des auto-entreprises en 2023, tout en analysant le vaste potentiel social et économique du régime qui reste encore à exploiter. Quel est le profil de ces auto-entrepreneurs? Quels sont les principaux secteurs d'activité dans lesquels ils sont les plus nombreux? Qu'est-ce qui a motivé leur choix pour se lancer? On va en parler tout de suite dans C'est ça la France. Et en deuxième partie d'émission, nous irons à la rencontre d'une femme entrepreneur avec deux autres camarades de jeu qui ont su relancer les courses hippiques avec une application très innovante. Vous pouvez devenir propriétaire de votre cheval virtuel. Et ça, c'est en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, François Hirel.
Sud Radio, c'est ça la France.
Merci d'être avec nous au micro de Sud Radio, François Hurel. Vous êtes le président de l'UAE, l'Union des auto-entrepreneurs. On a beaucoup de questions à vous poser sur le profil de ces auto-entrepreneurs. C'est quoi la moyenne d'âge, le profil type, la formation, le niveau d'études?
Bonjour. Alors c'est une population qui est à la fois nouvelle et en même temps qui est le reflet de la population française. Et c'est ça qui est effectivement intéressant. Donc, en gros, si je devais faire un profil type, ils sont quasiment autant hommes que femmes, une parité respectée presque. Ils sont plutôt jeunes, ils ont en fait en moins de 40 ans. Alors, s'agissant du niveau de formation, c'est très variable. On a toutes les catégories, du moins formé au plus formé. Et c'est bien ainsi. Et on a des gens qui ont un nouveau regard sur le travail. En réalité, ce qui change tout, c'est une métamorphose du regard des Français sur la façon de travailler, sur la façon de prendre leur vie en main. En réalité, si je devais résumer leur profil, ils aspirent. Ce sont des Français comme vous et moi. Ils cherchent de la liberté, de la responsabilité, moins de subordination. Et en fait, ils cherchent de l'indépendance.
Ouais. Alors, dans les témoignages, on le voit, hein, les gens disent, voilà, c'est aussi une façon de tester une passion, de passer à autre chose. Donc, ça permet finalement, pendant un temps, de garder son métier actuel et de commencer finalement à tester autre chose. Et si ça peut fonctionner, d'ailleurs, en général, c'est des métiers dont on peut en vivre derrière.
Parce qu'on a une idée du régime.
Allez-y.
C'est la vertu du régime, c'est qu'il est en fait universel. Il s'adresse effectivement en fait à tout le monde, mais vous pouvez l'exercer soit de façon exclusive, de façon alternative ou de façon cumulative. Alors vous pouvez être salarié et puis en fait auto-entrepreneur, vous pouvez être demandeur d'emploi et auto-entrepreneur. Et effectivement, il y en a une trentaine de pourcents qui en vivent très bien, qui sont des travailleurs exclusifs. Et qui atteignent souvent les plafonds. C'est-à-dire qu'en gros, ils font entre 30 et 35 000 euros de chiffre d'affaires par an, ce qui correspond à quasiment 2 SMIC, 3 SMIC, ce qui est largement au-dessus de la moyenne. Et si l'on prend la moyenne de ceux qui sont à titre exclusif, ils gagnent en général entre 1,7 et 1,9 SMIC, c'est-à-dire qu'ils sont dans la moyenne des rémunérations françaises, des revenus des Français.
Ouais. Vous avez déclaré, l'auto-entrepreneuriat s'érige en solution que beaucoup adoptent pour contrer le phénomène de délaissement des services publics ou se défaire d'un schéma professionnel qui ne leur correspond plus et prendre donc en main leur propre avenir, vous venez de le rappeler. C'est un statut qui est parfait pour nous aider à nous émanciper. Puis après, il y a cette nouveauté qu'on a. On arrive dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas sans défi, quoi. C'est pas simple.
Alors, ce qui est formidable, c'est que c'est en fait un régime qui a été créé en 2009. Depuis 2009, il y a eu 5 500 000 inscriptions. Il reste aujourd'hui 3 100 000 auto-entrepreneurs actifs. C'est finalement d'ailleurs entre nous le régime le plus pérenne en France en matière entrepreneuriale. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est un peu plus de 3 500 inscriptions chaque jour. Ouais. 3 500 par jour. Qui le crut ? Nous sommes le pays qui, sans doute, est le plus entreprenant du monde.
Qu'il y a une envie. Il y a une envie d'entreprendre.
Il y a une appétence fantastique et il y a surtout ce nouveau regard sur le travail et la façon de faire. Je crois que j'ai pas envie d'opposer le salariat à l'indépendance. Ça serait, à mon avis, faux. Mais en réalité, on voit bien que l'appétence, elle est à la liberté. L'appétence, elle est à la
dépendance. Comment on se prépare à ce changement de statut ? Parce qu'on a ce statut d'auto-entrepreneur, on se lance, mais il y a des risques financiers, il y a beaucoup d'incertitudes à la création d'une entreprise. Comment on nous prépare à l'échec, par exemple, aussi ?
Alors, peu de risques financiers, puisque finalement, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, si vous n'encaissez rien, vous ne devez rien à personne. Ça, c'est la grande novation. Et donc, en réalité, il n'y a pas tellement de risques. Là où, en revanche, il faut agir, c'est effectivement, ils nous disent tous que leur très grande difficulté, c'est savoir commercer, savoir se vendre, savoir trouver un portefeuille effectivement de clients. Et là, du coup, à l'Union des auto-entrepreneurs, nous avons engagé une véritable démarche de formation, anté-création, non pas une formation pour parler du statut, de la fiscalité, des affaires sociales, etc., mais juste pour parler de leur projet, juste construire leur projet.
Les aider, quoi, les aiguiller.
Absolument, et faire que le lendemain de leur inscription, ils remplissent leur frigo. Moi, je dis toujours, on peut accompagner, ça n'a aucun intérêt si jamais on n'a pas pour objectif de remplir le frigo. Il faut que lorsqu'ils sont inscrits, ils puissent faire un chiffre d'affaires. Alors, on a signé à la fois des partenariats, nous travaillons avec les ARAPL, qui sont des organisations en fait dans les territoires, pour justement nous permettre d'avoir des vrais messages et des vraies actions de formation pratique en fait dans les territoires. Plus de théorie, de la pratique.
Ouais. Plus de théorie, de la pratique, c'est vrai que c'est important de le redire parce que...
Apprendre son projet, faire son projet, construire le projet. Et donc nous avons signé, c'est vrai, un gros partenariat, puisque je suis effectivement à Sud Radio, avec l'ARAPL de Nice, avec les OGA de Marseille, pour que justement nous puissions avoir un accompagnement le plus à proximité et le plus pertinent possible, non pas pour en faire des experts comptables, des grands avocats juristes, ou parler de formalité administrative ou de la 2035 fiscale, mais juste de parler de leur projet.
Leur projet, parce qu'en général, il y a quand même une méconnaissance parfois totale du monde économique dans lequel ils se destinent à évoluer.
Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que la population à qui l'on va s'adresser est la population qui est sans doute la plus éloignée du monde, en fait de l'entrepreneuriat. Non pas qu'ils n'y connaissent rien, mais ils n'appréhendent pas. Ils ont été salariés, ils n'ont rien fait avant peut-être, parce qu'en fait ils sont jeunes. Mais en tout cas, ils ont cette volonté. Et cette volonté, c'est une chance formidable qu'il faut que nous prenions.
Et quels sont les secteurs d'activité plébiscités ? Est-ce qu'on a une idée ? On peut les dessiner ?
La prestation de services. Que ça soit dans toutes les techniques en fait nouvelles, l'électronique, tout ce qui est internet, tout ce qui va tourner autour des réseaux sociaux, tout ce qui va tourner autour, mais ça peut être aussi de la prestation humaine de bien-être. Ça peut être aussi une prestation d'accompagnement de gens. Ça va du jardinier jusqu'à l'internaute, en passant par tout ce qui est le bien-être. Bref, un accompagnement. En fait, le coaching, le consulting, tout ça, ce sont des. Ils inventent tous des nouveaux métiers. C'est ça qui est formidable. Ils inventent des nouveaux métiers. Ils inventent des nouvelles choses. Et je trouve que c'est une richesse incroyable.
Et on a une idée du passage d'auto-entrepreneur à entreprise normale qui paye une TVA. Est-ce que ce switch-là est aussi mesuré parce que c'est une première étape aussi. C'est mettre le pied à l'étrier dans certains cas.
Alors, pour certains, c'est une première étape. Pour une grande majorité, c'est une étape dans laquelle ils se sentent bien et toute leur vie. On en a beaucoup qui sont effectivement inscrits depuis 2009. Alors, non, on n'a pas vraiment le chiffre. Pour une raison simple, c'est que lorsqu'on inscrit une nouvelle entreprise, une société ou autre, nous ne cochons pas dans le code origine de l'activité l'auto-entrepreneur. Et donc, on ne sait pas quel est le moment de bascule. Tout ce que nous savons, c'est qu'on a une trentaine de pourcents de ces 3 millions, en gros, qui sont au plafond, qui sont ceux qui sont en potentialité de transformer.
Oui.
Alors c'est vrai que moi je fais une demande auprès des pouvoirs publics pour que pour qu'ils puissent franchir l'étape un peu plus facilement. D'abord il y a en fait une transition douce, mais au-delà de ça, qu'on puisse leur donner les moyens de travailler ensemble. Oui. Travailler à deux, travailler à trois, et ben c'est un moyen sans créer une construction juridique lourde. C'est un moyen de développer l'activité, des prestations et surtout de répondre à des besoins qui sont multiples.
Merci et beaucoup, voilà. François Hurel. Vous êtes le président de l'UAE, l'Union des auto-entrepreneurs. Merci pour cet éclairage au micro de Sud Radio.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
On va se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec une jeune entrepreneure qui a fait le choix de l'entrepreneuriat pour revisiter l'univers des courses hippiques. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente
Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, l'émission qui fait la part belle aux entrepreneurs sur Sud Radio, les beaux parcours. Alors justement, on va en parler avec notre invitée qui a su, avec deux autres femmes à ses côtés, réinventer finalement la course hippique. On en parle tout de suite avec Nina Capu, cofondatrice d'Equin.
Sud Radio, c'est ça la France.
Merci d'être avec nous, Nina.
Bonjour, Nathalie.
Alors, vous êtes à la tête de cette jolie start-up Equin avec deux autres femmes, Anaïs Isaac et Charlie Lofer. C'est bien ça. Hein.
Tout à fait.
Et alors, vous avez relancé un petit peu, vous revisitez ces courses hippiques. C'est assez étonnant. C'est une application. Alors, on va vous demander de bien nous expliquer comment ça fonctionne, qui permet d'acheter des parts de chevaux virtuels, mais qui sont liés tout de même à de vrais chevaux. Racontez-nous.
Sur Equin, on peut devenir virtuellement propriétaire d'un vrai cheval de course ou de vrais chevaux de course, parce que l'idée, c'est de composer son écurie avec plusieurs chevaux.
Donc, on peut composer son écurie virtuelle.
Complètement. On choisit ses couleurs de course, donc les couleurs de Kazakh, qui sont l'emblème du propriétaire dans la vie réelle. Et on va acheter des parts ou des unités, comme vous l'avez dit, de vrais chevaux de course. Donc, par exemple, le gagnant de l'Arc de Triomphe d'il y a deux semaines, on peut l'avoir dans son écurie Equin.
Mais alors, comment ça fonctionne concrètement ?
Alors, comment ça fonctionne ? C'est qu'on travaille directement avec les fédérations hippiques qui nous permettent d'avoir les données sur les chevaux. Nous, on les renseigne sur notre application.
Quand vous dites les données, c'est sportif.
Donc, c'est le nom du cheval, toutes ses performances en course, mais aussi les retransmissions vidéo. Parce que l'idée, c'est que dès qu'on a son cheval qui court, on peut regarder sa course en live sur l'application, se rendre gratuitement sur l'hippodrome, parce que les émotions qu'on vit sur un hippodrome ne sont pas du tout les mêmes qu'on vit derrière un écran. Donc c'est vraiment de créer un miroir de la vie réelle en invitant l'utilisateur à, déjà s'il est passionné de course hippique, à vivre encore plus intensément les courses, et s'il n'est pas passionné, à découvrir en fait cet univers qui est passionnant.
Mais alors, ça change quoi d'être propriétaire, entre guillemets, de son cheval virtuel ? Ça nous fait jouer différemment ? Ça nous implique différemment dans l'univers des courses hippiques ?
Ça nous implique déjà sur un temps qui est plus long, parce qu'on va dénicher un cheval qui a du potentiel, on va le voir évoluer. Ce qui est super par rapport à un pari, c'est qu'une contre-performance n'est pas forcément vue de façon négative, parce que le cheval peut derrière bien évoluer et performer comme jamais. Donc il y a cette dimension temps long où on va vibrer au gré des courses et pas seulement sur une course.
Mais en fait, vous avez complètement réinventé la façon de jouer aux courses avec cette application.
C'est une nouvelle porte d'entrée vers les courses hippiques qui se situe entre le pari et le propriétariat. Et voilà, c'est une nouvelle façon de vibrer.
Mais c'est quoi ? C'est vrai, c'est à la frontière du jeu, de la communauté,
du réseau social, parce qu'on va pouvoir regarder ce que les autres utilisateurs ont dans leur écurie, se challenger au sein d'un classement.
On devient addict en fait.
On devient en tout cas passionné. Ouais. C'est une nouvelle façon de vibrer au rythme des courses, de découvrir les chevaux, parce que sur l'application, on a des utilisateurs qui ne connaissaient pas les chevaux, qui n'avaient jamais mis les pieds sur un hippodrome, et ils se prennent au jeu.
Alors, comment vous avez eu, qu'est-ce qui vous a motivé ? Comment vous avez eu cette idée ? Alors, vous êtes toutes les trois cavalières passionnées de cet univers-là ?
On vient toutes les trois de la filière, donc on est passionnées de chevaux. Et notre volonté, c'était de créer une nouvelle porte d'entrée vers les courses hippiques pour aller séduire un public nouveau, pour redonner une nouvelle place aux courses hippiques dans la société. Donc, en embarquant les passionnés de courses, mais aussi en étant accessibles à un nouveau public, et notamment notre génération, la jeune génération.
La jeune génération ne s'intéresse pas assez, c'est ça, aux
courses hippiques ? S'intéresse pas assez aux courses hippiques.
C'est un désintérêt pour...
Voilà, c'est plus désirable de se rendre sur un hippodrome, alors qu'un hippodrome, c'est aussi un lieu de vie, c'est pas seulement pour aller parier. Il y a une dimension sociale où on peut rencontrer ses amis et vibrer, parce que les émotions d'une course, ce sont des émotions universelles. Il y a un gagnant. Une course, ça dure en moyenne 2 minutes, voire 1 minute pour certaines courses. c'est accessible, il n'y a pas de technicité. Et quelqu'un qui ne connaît pas les chevaux, qui ne connaît pas les courses, peut vraiment se prendre au jeu. Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus ce côté passif, quoi. C'est qu'on est, on est devenu vraiment très, très actif dans notre application pour suivre. J'ai presque l'impression qu'on apprend avec cette application la culture aussi de la course hippique. Hein.
Voilà. Et c'est une mouvance.
Il y a une densité supplémentaire.
C'est une mouvance qui est plus large. Vous avez parlé de proactivité. Ça existe dans d'autres sports. Ça s'appelle le fantasy sport, où on devient un peu proactif. On va construire son équipe de foot, aligner ses joueurs. Et là, en l'occurrence, on construit son écurie. On sélectionne ses chevaux. Et notre écurie va prendre de la valeur et va monter dans un classement en fonction des résultats réels des chevaux.
Alors aujourd'hui, ce qui utilise Equine, la communauté, c'est. Beaucoup de parieurs,
on a 10% des néophytes, des courses. Donc les acteurs des courses, ça peut être des cavaliers d'entraînement le matin, ça peut être des propriétaires, des jockeys. On a 80% de parieurs et 10% de néophytes. Et le fait d'avoir déjà des néophytes, alors que ça fait 3 mois qu'on a lancé l'application, c'est une vraie victoire pour nous. On a rencontré des utilisateurs.
Comment vous l'expliquez ça ? Vous avez su utiliser les bons codes pour finalement...
Exactement. On a repris les codes qui sont universels. On simplifie le langage des courses hippiques, la technicité. Parce que vous vous rendez aujourd'hui sur un hippodrome, vous lisez un programme de course.
Mais ça donne pas envie. Si on n'est pas à l'univers, on ne comprend rien. Du coup, on ne s'implique pas.
Et donc nous, on a tout simplifié et on a rendu ça ludique. C'est désirable, quoi. On a envie de créer son écurie, on a envie de suivre ses chevaux.
Et c'est surtout qu'on peut épier le voisin. C'est-à-dire que pour les parieurs, on pourrait dire, tiens, à quoi ressemble son écurie avant une course, voir les capacités, les performances des chevaux.
Exactement. On identifie même les professionnels des courses sur l'application au moyen d'un petit tag bleu, les pronostiqueurs hippiques. Donc ce côté social, on l'avait sous-estimé. En fait, c'est au cœur de tout.
Ouais. Alors comment ça se passe au niveau de votre business plan? Parce que j'ai lu en fait que vous aviez réussi à fédérer autour de vous des gens de renom hein, dans cette communauté hippique comme Stéphane Pasquier, Gabi Gelormini. Comment vous procédez? Comment ça se marche? Comment ça fonctionne? Il y a des accords passés avec l'Union comment dire ça, les différents hippodromes de France, ou comment ça se passe?
On travaille avec toute la filière, que ce soit les fédérations, donc France Gallo et le Trot, avec les hippodromes pour permettre un accès à nos utilisateurs aux hippodromes quand ils ont des chevaux qui courent. Et après, nous, en venant de la filière, on a accès à tous ces socioprofessionnels, donc les professionnels des courses. Et les noms que vous avez cités, ce sont des jockeys très connus ou des drivers au Trot. Et en fait, ils se sentent... vraiment faire partie de cette mouvance, parce que ce qu'on essaye de faire avec Equine, c'est d'ouvrir une nouvelle porte d'entrée vers les courses, de mettre les courses hippiques au centre de la société, et tout le monde en fait partie. C'est un projet de filière finalement.
Mais au niveau des droits d'utilisation, le fait justement d'avoir, tu pourras utiliser des vrais joueurs, des vrais chevaux, comment ça se passe?
Donc on fonctionne avec les fédérations, et en contrepartie de ces droits, on leur reverse une partie de notre chiffre d'affaires. Donc on contribue au financement de la filière et c'est un cercle qui est très vertueux.
Oui, c'est gagnant-gagnant, quoi.
Exactement.
En image pour eux, vous aussi financièrement, eux s'y retrouvent aussi. Donc
ça peut donner envie à des néophytes de parier ou de devenir même propriétaire. Donc c'est un cercle vertueux pour tout le monde, finalement.
Puis il y a toujours cette inquiétude, finalement, de ne plus avoir de connexion avec les jeunes générations.
De renouveler l'audience.
Ouais. C'est primordial pour la pérennité aussi de ce savoir-faire.
Tout à fait, parce que les courses hippiques, ça fait partie du patrimoine français. Et je trouve qu'elles ont perdu de leur brio. Avant, elles avaient une autre place dans la société. Et on aimerait qu'à nouveau, ce soit désirable, qu'on ait envie de se rendre aux courses, qu'on ait envie de regarder les chevaux, les athlètes, les jockeys, s'intéresser à ce sport.
La prochaine étape pour vous, on le disait, hein, c'est tout récent, vous avez su fédérer, j'ai lu qu'il y avait une levée de fonds d'1,5 million, donc c'est-à-dire que ça intéresse énormément. C'est quoi la prochaine étape pour Equine?
Alors là, en 3 mois, on a réussi à fédérer plus de 8500 utilisateurs, donc c'est hyper important, et là c'est d'aller encore plus haut. C'est d'ici 2 ans d'atteindre les 50 000 utilisateurs, c'est d'aller vers l'international.
Voilà. Et créer des connexions avec les autres fédérations.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Nina, qui a pu vous en parler avec beaucoup de passion. C'est très agréable. Co-fondatrice d'Equine. Encore un grand bravo à vous, à Anaïs et à Charlie pour cette très, très belle idée pour justement apporter un souffle nouveau aux courses hippiques. Merci d'avoir pris le temps d'en parler avec nous au micro de Sud Radio.
Merci pour l'invitation.
Et nous allons partir en balade maintenant avec Thibaut, notre French Trotter.
Destination Occitanie et les entreprises ouvertes à la visite vous présentent
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Cette semaine, Thibaut, vous étiez en balade du côté de l'étang de Thau, c'est bien ça?
Ah, j'étais à Marseillan, pour être exact. Et ceux qui connaissent un peu la région savent qu'à deux pas du petit port, il y a une institution locale, la Maison Noailly-Pratt, qui est l'un des plus grands et des plus anciens producteurs de vermouth. Et c'est une visite que l'on n'oublie pas. Alors, dès qu'on franchit les portes du chai historique, on est immédiatement happé par l'univers de cette grande maison, fondée en 1813, s'il vous plaît. Et c'est Pascal Bertolotto, guide expert, qui m'a fait découvrir les lieux. Il a commencé par m'expliquer ce qu'est le vermouth.
Mais le vermouth, c'est un apéritif à base de vin. Ce sont des vins qui sont fortifiés par de l'alcool et dans lesquels on fait macérer des plantes, des herbes, des épices, des racines, etc. Sa teneur en sucre peut varier, ainsi que sa couleur, bien sûr. Il va falloir qu'on titre entre 14,5 et 22 degrés d'alcool. Petit détail très important également. Il nous faudra toujours un petit peu de absinthe. Je parle de la plante, on n'a pas parlé de distillation,
oui,
d'accord, beaucoup plus inoffensif. En fait, l'absinthe, ça va nous apporter de l'amertume surtout. Pourquoi il nous faut toujours un petit peu d'absinthe, ne serait-ce qu'un petit peu pour être un vermouth? Tout simplement parce que vermouth, ça veut dire absinthe.
D'accord.
Donc si on n'en a pas, on n'en est pas, par définition.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est une visite guidée aussi.
Oui.
Et on découvre tout le processus de production que vous allez nous raconter.
Exact.
Et ça se passe
derrière cette
porte.
Cette porte, exactement.
Alors tout de suite, on est saisi par cette odeur.
Et ça, c'est l'évaporation des mistels. Les mistels, c'est des vins de liqueur. Et nous, en fait, on s'en sert comme sucre. Avant la macération, au lieu de rajouter du sucre, on rajoutera donc ces vins de liqueur, la mistel, qui est vraiment très très doux. Et là, on est à l'extérieur, vous avez des tonneaux d'entre 5 et 600 litres. Et là, on fait vieillir nos vins. Les vins, c'est quand même notre base. Mmh. Alors, nous, on travaille avec des vins de la région qui ont été sélectionnés pour leurs caractéristiques et leur profil aromatique proche du picpoule et de la clairette. Donc, deux vins assez secs en bouche. Donc, ces deux types de vins, ici, vieillissent séparément dans ces tonneaux pendant 12 mois. 12 mois de vieillissement à l'extérieur.
Comment se déroule la visite ensuite?
Après avoir parlé des mistels et des vins, qui est notre base, il y a quelque chose d'important aussi, c'est les plantes
les
et les épices.
Voilà,
exactement. Donc, on va continuer.
Et donc, ici, dans ce chez, on découvre les épices qui sont intégrées à la production du vermouth.
Exactement. Nous avons une moyenne d'une vingtaine de plantes épices dans chacune de nos recettes, puisque nous avons quatre recettes. Hein, quand même.
Pour rappeler les épices principales?
Alors, nous avons, chez Noailly-Pratt, on a surtout trois épices majeures communes dans les quatre différentes recettes, qui sont la coriandre, la camomille et la racine de gentiane, qui va nous apporter encore plus d'amertume.
Alors on a compris quels étaient les ingrédients de base du vermouth. Si j'ai bien suivi, l'étape suivante, c'est la macération, Thibaut.
Vous avez bien suivi, Nathalie. Cette macération se fait de manière traditionnelle dans un tonneau en chêne que l'on appelle ovale de macération. La suite, c'est Pascal qui nous la raconte.
Nous avons un assemblage de base qui est le résultat de l'assemblage des vins qui vieillissent à l'extérieur.
Qu'on a vu vieillir à l'extérieur.
À l'extérieur, exactement. Et des mistels qu'on a vus au départ, qui est donc notre sucre. Donc cet assemblage de base, maintenant, on va le placer dans ces ovales de macération. 20 hectos, comme vous voyez là, ce numéro 20 en haut sur la plaque. Donc 2000 litres. Au-dessus de chaque ovale, nous avons une ouverture. Et ce qu'on va faire, on va monter sur une passerelle qui est au-dessus. Et on va y verser l'équivalent de 3 sacs en toile de jute, plein de plantes et d'épices différentes. Alors quelque chose d'important également à préciser, c'est que toutes ces plantes et ces épices sont broyées.
Pour libérer les arômes.
Exactement.
Donc macération dans la pure tradition. Et vous tenez entre vos mains un objet assez étrange qui est un peu entre la faux et le club de golf. Qu'est-ce que c'est?
On appelle ça un fouet, en fait, et on va se servir de ce fouet pour dodiner.
Dodiner.
Et ça va nous servir pour bien homogénéiser tous ces assemblages de vins avec ces plantes-là.
Et on fait chaque jour.
Pour se rappeler tout ça, c'est très facile, on va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, 1, c'est une fois par jour, 2, 2 minutes, et 3, semaines.
J'imagine qu'il y a encore d'autres étapes, mais comme on ne peut pas tout raconter, le mieux c'est d'aller visiter, Thibaut.
Oui, on vous expliquera également comment on sépare le liquide des plantes. Et bien entendu, vous pourrez déguster les 4 vermouths de la maison, à consommer avec modération, bien entendu. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Toutes les infos sont sur www.noailly-pratt.com.
Merci Thibaut pour cette visite.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Avec Destination Occitanie et les entreprises ouvertes à la visite.
On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, d'être là, toujours là, dans C'est ça la France. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien et bon dimanche à tous.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.